Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Semaine dernière, donc, nous nous étions quittés avec Saint Hugo d'Amvélie, dont je disais qu'il avait dans son enfance des attitudes de personne âgée, on va dire, hein, c'est-à-dire en marchant les mains derrière le dos, ou en parler en pointant l'index vers le ciel, en disant « disons que », ou en employant différentes tournures de phrases. Il écrivait aussi très très bien, je ne parle pas de la qualité calligraphique de son écriture, qui était absolument lamentable, mais je parle du contenu, je parle du choix des mots, je parle qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe, je parle que les phrases étaient extrêmement bien construites. Il était passé d'une classe à l'autre avec 17,75 de moyenne annuelle sur 20, hein, vraiment, voilà, et c'était, parce que quand il était en cours, il gobait les connaissances, il les avalait, il fusionnait avec le cours. Il était extrêmement intéressé par ce que a enseigné l'instituteur ou le professeur. Enfin voilà. Et donc voilà un enfant qui, lorsqu'il revenait de l'école, disait à son petit frère: non, ne me parle pas, je pense. Et en fait, il imaginait des histoires. Donc c'était un enfant qui vivait dans un monde intellectuel très dense, un monde de l'imaginaire extrêmement fertile, hein, et plus tard d'ailleurs il nourrira cela de longues balades solitaires dans la garrigue, mais nous n'en sommes pas encore là, nous en arrivons à l'âge de, alors j'allais dire à l'âge de 10 ans, il faut savoir que déjà à l'âge de 9 ans il avait eu l'idée d'écrire son journal, mais il se disait, ouais, d'abord, toutes les années où je ne l'ai pas écrit, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc il y a l'idée d'écrire un journal alors qu'il n'a que 9 ans, il y a l'idée que c'est trop tard qu'il a. Donc vraiment une sorte d'aquabonisme parce qu'il se croit plus vieux que ce qu'il n'est. Hein. Il avait 7 ou 8 ans quand en allant chez le boucher, il se disait qu'il ne devait rien y avoir de plus horrible dans la vie que de mourir en regrettant la vie qu'on avait eue. Donc il y avait cette précocité intellectuelle, cette très très grande sensibilité, en même temps qu'il y avait la vie dans une famille fortement dysfonctionnelle, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, bien que, toute sa sainteté, évidemment, n'est pas là. Mais tout cela, je vous l'explique, pour mettre en valeur, si vous voulez, la qualité de sa résilience, l'importance extraordinaire que la spiritualité, que la quête de l'idéal, du beau, de l'absolu, du vrai, de l'ultime, va jouer un rôle vraiment prépondérant dans cette résilience magnifique, mais nous n'en sommes donc pas encore là, et il y a donc ce moment absolument faramineux qui nous est rapporté dans le Mysterium Graphicum de Bertrand de la Motte Chandon qui raconte, il a pris ses sources chez différents auteurs de l'époque et même sur une gazette qui narrait l'événement, qu'il y avait une jeune fille qui était à cheval et le cheval était emporté par une galop furieux qui fonçait à travers les arbres d'une clairière et qui allait comme ça droit vers une falaise. Et Saint Hugo d'Amvélie savait qu'il y avait la falaise au bout. Et donc voilà notre Saint Hugo d'Amvélie qui a à peine 10 ans, qui court après le cheval pour tâcher de rattraper le cheval. Évidemment, ce n'est pas possible. Le cheval est emporté par son galop, comme ça il ne s'arrête pas. Et qu'est-ce que vous voulez, courir plus vite qu'un cheval au galop, c'est pas possible. Et puis bon, pour un enfant de 10 ans, c'est encore moins possible. Il n'empêche, et ça c'est assez extraordinaire, il ramasse une pierre et il lance la pierre, et la pierre en fait dépasse le cheval, heurte un rocher et fait une étincelle. Le cheval, à la vue de cette étincelle, s'arrête. La jeune fille se retrouve culbutée par-dessus le cheval, elle tombe, elle se blesse un peu la jambe, elle a du mal à marcher. Saint Hugo d'Amvélie qui la prend, qui la porte dans ses bras et qui l'amène vers une cabane qui était pas loin, qui était la cabane d'un bûcheron. Hein, ce bûcheron, il vivait un petit peu dans cette cabane quand il s'éloignait de chez lui, mais sinon ça lui servait à entasser les troncs d'arbres et les branches qu'il venait de découper. Donc cette cabane, c'est un petit coin où on peut s'allonger sur une paillasse de feuilles sèches, hein, et de mousse encore verte, encore légèrement humide, et puis tout autour ce sont des rondelles de d'arbres, des rondelles de troncs d'arbres, des branches auxquelles il a enlevé les écorces et qu'il a dénudé de ses feuilles. Et donc voilà notre Saint Hugo d'Amvélie qui s'occupe comme cela de la gamine. Enfin, je dis la gamine, elle avait quand même près de 19 ans, et lui n'avait que 10 ans. Et voilà, il lui demande avec une certaine timidité si elle peut relever ses jupons comme cela pour qu'il la soigne, et il lui porte de l'eau fraîche comme cela qu'il imbibe avec sa chemise qu'il a enlevée pour soulager de sa blessure cette jeune fille. C'est une histoire très importante qui va commencer là et qui marquera vraiment quelque chose de très important dans sa vie. C'est pourquoi je vous le narre, je vous le raconte. Ce n'est pas uniquement le fait de la pierre qui a fait cette étincelle, qui a arrêté le cheval, bien que ce soit en soi-même un fait extraordinaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire qu'on dirait que c'est vraiment fait exprès, qu'il y a un sens aux choses, parce que... il se trouvait là, au bon moment, avec cette jeune fille, emportée par le cheval. Il n'arrive pas à rattraper le cheval, ce qui est normal. Il ramasse cette pierre. Qu'est-ce que c'était cette pierre? On ne sait pas. Un silex, autre chose. On ne le sait pas. Il la lance, ça fait une étincelle. Le cheval s'arrête net. La jeune fille tombe. Il ramasse la jeune fille. Il la porte à la cabane du bûcheron. Et c'est là une histoire, une aventure qui va durer tellement longtemps. Et cette jeune fille sera d'ailleurs l'une des sources, l'un des recours, l'une des inspiratrices de cette résilience magnifique, extraordinaire, prodigieuse, que j'aurai l'occasion de vous raconter dans les prochaines chroniques. Mais en attendant, il est là dans cette cabane, il soigne cette jeune fille, il lui parle avec douceur, elle lui répond avec cette voix qu'il décrira lui-même comme le chant d'un ruisseau qui passe à travers quelques pierres fraîches, agrémentées par le sifflet et le chant d'un rossignol quelque part, avec les feuilles des arbres qui, remuées par le vent, font un petit peu un fond sonore à cette musique magnifique qui est la voix de cette jeune fille. Et voilà comment se passe l'après-midi. C'est un après-midi délicieux qui semble s'écouler en quoi? Tout un après-midi semble s'écouler en pas plus de 17 minutes, tellement c'est savoureux, tellement c'est prodigieux, c'est fin, c'est délicat, c'est rafraîchissant. Et voilà que la jeune fille tend la main, ouvre son sac, et de son sac, elle sort une feuille de papier, d'un papier que lui-même n'a jamais vu. En fait, c'est un velin fin, un papier incrusté comme cela, fait à partir de pétales. Un papier qui est mélangé avec des pétales de fleurs. Donc vous avez cette feuille, pas blanche, hein, légèrement jaune, blanc et cru, on peut dire quelque chose comme cela, avec des petites parsemées de petits points de couleur rouge, violet, jaune, que sont les pétales des fleurs et le pigment des ailes de papillon. Et elle lui tend cette feuille de papier où se trouve un poème magnifique, écrit avec des mots qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais lu, qu'il n'a jamais entendu. Et il lit ce poème, et tandis qu'il lit ce poème, il voit la cabane du bûcheron comme cela qui semble disparaître, s'évanouir dans une vapeur indicible. Et ce voyage ne sera que le prélude au voyage que je vais vous raconter la semaine prochaine. Mais nous avançons petit à petit et progressivement dans une ambiance où nous allons vivre bientôt, dans 2-3 semaines environ, je pense, l'une des grandes étapes de cette merveilleuse résilience qui fait que ce saint inspirera quelques petits dames solitaires avant que, depuis peu de temps, on le redécouvre comme fondateur de la civilisation de demain.